à bout de souffle. Contrebassiste, improvisatrice, vocaliste, compositrice, théoricienne, poète, Joël Léandre est une figure dominante de la nouvelle musique improvisée européenne qu'elle donne à entendre dans le monde entier avec une boulimie irrépressible. Elle a joué avec l'Itinéraire et l'Intercontemporain de Boulez. Elle a travaillé avec Merce Cunningham et John Cage. On l'a entendu avec les grands noms du jazz et de l'improvisation. Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Bar Phillips, John Zorn, Carlos Zingaro, William Parker. Rétive aux ordres établis, ignorant les paravents des catégories, elle enregistre d'abondance, presque sans céder. Écrit pour la danse et le théâtre, réalise des performances multidisciplinaires et enseigne aussi au Mills College en Californie. Joël Léandre invente sa terrifiante création, chante, hurle et murmure, cajole, onomatope, peint, dépose poèmes et prose, tenace, cabrée, flagellante, inextricable, révoltée, maniaque, soulevante, absolue. À l'occasion de l'apparition du livre À voix basse, entretien avec Joël Léandre par Franck Medioni, le Petit Faucheux à Tours a souhaité proposer une table ronde en compagnie de Joël Léandre et Franck Medioni de France Musique. Table ronde avec la participation de Quentin Sirjac, pianiste, et de Bernard Aimé, ancien directeur artistique du Petit Faucheux. C'est ce dialogue entre Joël Léandre, Franck Medioni, Quentin Sirjac et Bernard Aimé que nous vous donnons à entendre. Entretien, rencontre, réalisé le 19 septembre 2009. Au Petit Faucheux, à Tours.
I Bonjour, merci au Petit Faucheux de nous accueillir. Je me présente, je m'appelle Franck Mézioni, je suis journaliste, je travaille à France Musique, producteur de l'émission Jazzistique. J'ai eu le plaisir avec Joël Léandre, grâce à qui on est réunis ici, de faire il y a 2 ans ce livre d'entretien qui est sorti aux éditions MF. Je vais vous dire quelques mots sur ce livre et puis après on va ouvrir le champ, les champs et la table ronde. Donc en compagnie, on va présenter peut-être les gens qui sont à nos côtés. Donc Joël Léandre, bien sûr, Quentin Serjac qui a joué à l'instant et Bernard Aimé, ancien directeur du Petit Faucheux. Je vais vous dire quelques mots sur ce livre. On s'est vu pendant 2 ans à ton domicile à Paris, toute une série de séances de questions, improvisations, déambulations, et suite à ça, on a dégagé des thématiques. On a dégagé 7 thématiques qui forment un livre étoilé, mais avec des lignes de force quand même. Son, leçon, influence, confluence, base, basse, improvisation, composition, nomade, monade, sillon, micro-sillon, poétique, politique. Ce livre, in fine, je crois, retrace bien d'une part le parcours musical de Joël Léandre, mais ce n'est pas seulement le parcours d'une musicienne, c'est aussi, je pense plus que ça, peut-être, comment dire, un voyage, oui, et puis comme je dirais un manifeste poétique, car il s'y manifeste une poésie, peut-être même, on en pourra en parler, une mystique, pour employer un grand mot, mais on peut le questionner. Et puis il y a ce qui est très touchant, je l'ai relu en venant ici à Tours dans le train, je me suis fait cette réflexion qui est simple, mais ce qui sort de ce livre aussi, c'est comme un manifeste politique, poétique, ou même, comme dirait Bernard Luba, poélitique. Mais c'est qu'il y a en œuvre, dans ce livre, la manifestation d'une musicienne en mouvement permanent, et aussi, surtout, une manière assez extraordinaire, et c'est pas parce qu'elle est là que je le dis, elle est à mes côtés, mais une manière assez bouleversante de vivre la musique au quotidien, dans la vie. Et la vie et la musique, je pense, ne font qu'un. Je vais terminer et pour dire que souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est une pensée en mouvement, et que ce soit en musique, en littérature ou en architecture. Il y a cette pensée en mouvement et il y a une adéquation parfaite entre l'œuvre et le musicien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai été, je peux dire, assez intime avec un musicien qui s'appelait Steve Lacy, saxophoniste soprano, avec qui d'ailleurs Joël a fait un très beau disque. Et quand j'entendais ce musicien, le connaissant, j'entendais l'homme. Et quand j'entendais l'homme, quand je lui parlais, j'entendais la musique. Et avec Joël, c'est aussi le cas. Il y a une adéquation, je trouve, forte entre l'expression et l'être. Ces choses dites, je vais ouvrir, pas le bal, mais le débat. J'ai envie de commencer à une question préliminaire à Joël. Ce livre, donc, bon, il est sorti il y a 2 ans, il fait son chemin, il vit, il est lu. Qu'est-ce que... 2 questions peut-être préliminaires. Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il a mis en jeu pour toi ?
M'excuser parce que je viens de subir une opération à main gauche. Donc j'ai, d'ailleurs, ça doit prouver et signaler un gros travail depuis de longues années. Avec cette noble, vaste, grand, sublime instrument, grave, lourd et gras, qui s'appelle la contrebasse. Alors, tu m'as posé une question. C'est une vie. Les questions que tu me posais à la maison sont le résultat de cette mise en forme aussi, parce qu'il y a une forme dans le livre avec ces 7 chapitres. C'est une vie avec la musique, avec l'univers du son, des sons, avec des réflexions assez quotidiennes, je dirais, de toutes ces rencontres que j'ai faites, multiples, voulues d'ailleurs, très jeune, en partance, souvent, en partance aussi de mon pays, en allant ailleurs. Le fait du voyage, du phénomène de partir à la rencontre d'eux, c'est un état en même temps d'immense ouverture, de danger presque, poétique, on le verra plus tard, parce que j'avais à peine 22, 23, où je tenais les mêmes propos que je tiens encore. Je suis une grande idéaliste, ou je ne sais, ou une utopiste encore. Je ne sais si c'est mon arrivée sur Paris fin 68. Je ne crois pas, c'est peut-être héréditaire ou moléoculaire, si le mot existe, qui fait que je me suis toujours questionnée, évidemment en tant que musicienne, mais en tant qu'individu, dans le quotidien, dans la société, dans pourquoi cet instrument, c'est quoi cet instrument, son positionnement. Et puis au fond, j'ai une réflexion, je crois, oui, c'est peut-être polémiste aussi, aussi politique, oui, de l'individu marchand et qui cherche et qui fouille et qui grandit au fond d'une multitude de rencontres avec des chocs, des ratages, des accidents même, et aussi une profonde solitude rentrée après un concert avec des potes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de potesses, c'est un autre sujet, un autre débat, et c'est des vies difficiles de oser prendre la parole. Le livre contient tout ça, d'une femme qui... On est là, mais il n'y en a pas assez. Donc, il faudrait qu'il y en ait plus, ce domaine de prendre la parole. Dans ce monde des musiques dites créatives, inclus avec le jazz, je ne viens pas du jazz, je l'aime, j'ai appris d'eux, j'ai appris d'en écouter, j'ai appris d'aller d'en écouter live, comme on dit, direct, puis de rentrer à la maison, puis de réfléchir. Je me vois à 18 ans à peine au River Bop à l'écouter JF, Kenny Clarke même et bien d'autres seul, parce que les années 70, je vous jure que s'il y avait quelques couples d'âmes, couples, il n'y avait pas des filles seules, donc je buvais, je sais pas quoi, un jus de fruits, pas encore des bières ou des whisky, et j'écoutais une autre musique quand je rentrais au conservatoire et je jouais le concerto spaghetti saucisson, enfin, magnifique. Sur nous, on a des concertos spaghetti. Nous. Les bassistes, c'est pas très heureux comme répertoire. Donc beaucoup de choses, pour aller plus vite, m'ont révoltée. Est-ce que c'est cet instrument, sûrement, parce qu'il n'a pas de répertoire, parce qu'il a un positionnement assez débile, qui a décidé, décrété que la basse n'était pas soliste, que la basse était que d'accompagnement. Son positionnement, il est au fond. Pourquoi on met la basse au fond? Pourquoi on met pas devant? Enfin, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de femme qui joue de la basse, c'est pas vrai. Et puis après, la vie du musicien. Et puis voilà, au fond, je te réponds, c'est une vie.
Tu as répondu à la première question. La deuxième question, tu as répondu sans vraiment y répondre. Qu'est-ce que ce livre-là, qu'est-ce que ça a mis en jeu ou révélé? Peut-être un questionnement, certaines réponses
Ben, c'est un concentré de... S'il y a des bonnes questions, il y a des bonnes réponses, n'est-ce pas? Donc c'est un concentré de ma pensée. Ce livre a construit et a renforcé ce que, il me semble, je suis bizarrement placée de parler de ça, c'est difficile de parler de soi, ce que je contiens. Donc ça a clarifié un travail. Même cet éclectisme, par exemple, on m'a souvent reproché. Il est vrai que j'ai beaucoup appris d'autres langages, d'aller vers la danse, d'aller vers les gens de théâtre, d'aller vers les poètes. On apprend. Alors on appelle ça la transversalité ou la transculturalité après, puisqu'après on joue aussi avec des musiciens qui ont une autre culture. Mais on grandit de ça. À vous de rentrer chez vous et d'être perdu, paumé, de potasser, de lire, d'entendre. Et c'est un labeur, comme je dis, et dans le film, évidemment, dans le bouquin, c'est un peu les mêmes années où il y a eu ces deux documents. Ça a renforcé, si tu veux, ou un peu nettoyé ma pensée et oser la prononcer, la dire. C'est ça, un livre, c'est comme presque un portrait que tu as fait.
Bernard Aimé, qu'est-ce qui est marquant à la lecture de ce livre ? Toi qui connais bien Joëlle, est-ce que c'est elle que tu as reconnue telle que tu la connaissais ? Il y a eu des étonnements, des questionnements, des agacements des...
Avec Joëlle, tout surprend à chaque fois. Donc il n'y a jamais une monotonie. Effectivement, on la connaît depuis longtemps, Petit Faucheux, parce que ça fait un certain nombre d'années que Joëlle vient jouer ici, dans différents contextes, hein, du solo à d'autres formations. On a pris l'habitude au Petit Faucheux d'être assez fidèles, nous, avec les musiciens. C'est pour ça qu'on est toujours très heureux de l'accueillir et qu'il est rare qu'on refuse les projets de Joëlle, sauf quand ils sont trop immenses pour nos faibles moyens, ce qui lui arrive aussi. Non, je ne peux pas dire que j'étais surpris, mais, sauf que, comme je disais, on est toujours surpris avec Joël, donc ça va dans ce même sens. Ça va dans le sens de sa musique, effectivement. Quand on lit le livre, on a l'impression d'entendre sa musique. Voilà, donc il n'y a pas plus de surprise que ça, mais un étonnement permanent qui correspond tout à fait donc, à la personnalité de Joël et à sa musique. Moi, j'aimerais bien, si tu me permets, juste poser une question à Joël pour rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle était en permanence, en partance. Et je voudrais qu'elle explique surtout aux gens pourquoi elle joue si peu en France et tant à l'étranger.
Ah, il y a beaucoup de hasard aussi, parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans ce métier, en général. Mais très tôt, je suis partie aux États-Unis. Alors, pourquoi je suis partie aux États-Unis ? Parce que j'ai rencontré John Cage. Il faudrait commencer au début, mais je ne voudrais pas parler que de moi, parce que ben on va parler que de moi d'ailleurs, on est là pour ça, pour parler que de moi. Donc, avec un parcours classique, je me suis rapidement intéressée à l'écriture. L'écriture de mon instrument aussi, à la composition donc. Quand je parle de positionnement, donc ça a à voir avec l'orchestration aussi, c'est quoi une contrebasse, c'est quoi les graves et tout ça. Et j'ai été très jeune, très rapidement, vers la musique contemporaine. Plus tard, je m'aperçois que toutes ces appellations, j'en ai souffert de ces choses-là, plus à mon âge. Mais la société culturelle est mal foutue de savoir qu'on a, dans ce pays qui est la France, qui est très ou assez conservative, enfin c'est très conservatif, oui, c'est très conservatif, on a besoin de ces classements et de ces tiroirs. Et l'artiste en général, pas que musicien, souffre de ça. Parce qu'on, voilà. Donc, venant et rapidement à la musique dite toujours savante, il y a des appellations, musique populaire, musique savante, vous savez. Je me suis intéressée à l'écriture et j'ai provoqué des compositeurs pour écrire pour cet instrument. J'en ai provoqué 40, une quarantaine, c'est beaucoup. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé cette chose-là, tout en allant écouter le jazz. Alors cet amour, je dirais, de cet instrument m'a interpellée dans plein de champs, ANT, AMP. Et j'ai découvert dans la musique toujours savante, à travers certaines époques et de certains compositeurs, tout un champ de liberté où certains compositeurs, on peut nommer évidemment Cage inclus, musique graphique. Les années 70, arrivaient les quatre mousquetaires, là, Christian Wolff, Earl Brown, John Cage. Ils arrivent d'ailleurs à Darmstadt, le temple des musiques et de la recherche, je dirais, qui s'écrivait. Ici, de France, il y avait Boulez, il y avait Nono, il y avait Maderna, il y avait tous ces... Donc, je suis totalement là-dedans. J'ai vécu toutes ces époques-là et j'ai joué certaines partitions qui m'ont complètement, pas choquée, mais noblement choquée, émerveillée, où il y avait des petites parcelles d'ouverture, on appelle ça open form, des formes ouvertes, où on laissait, pas libre, puisque s'il y avait quand même des donnes, toujours écrit, mais où il y avait des libertés chez le musicien. On disait, voilà, vous pouvez choisir entre je sais pas quoi, do, sol dièse, fa et fa grave, si on rentre dans des trucs plus théoriques. Donc il y avait des libertés enfin où tout n'était pas polissé, parce que la musique écrite est polissée, cloisonnée, et le pupitre et la partition, de toute manière, est un filtre magnifique, parce que j'ai quand même immensément interprété la musique des autres. Mais on est quand même polissé. D'ailleurs, on s'aperçoit dans certaines et beaucoup d'interprétations que, je vais prendre l'exemple, excuse-moi, Quentin, je vais prendre l'exemple des pianistes dans certaines et beaucoup de musiques, c'est à la limite de comment on relève dans certaines sonates l'épaule et le coude à la même expression, parce qu'il y a un crescendo. Je veux dire, c'est quand même très policé. Donc, ces choses me questionnaient. C'est pas qu'elles m'ennuisaient, mais... Donc, au travers de la musique contemporaine, je me suis posé, là, j'ai dit, il faut faire quelque chose à moi-même. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cage. J'ai par la suite rencontré des amis, dont une personne, philosophe d'ailleurs, qui me dit, Joël, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois voyager, pars, file. Le musicien, il file. Et, sur les... et je suis partie, j'avais quoi, 26 ans, aux États-Unis. J'ai reçu une bourse américaine. Et c'est vrai que ça a été le catalyseur de beaucoup de choses. J'avais fini déjà mes études classiques. Évidemment que j'écoutais du jazz. Étant bassiste, on ne peut pas ne pas savoir ce que le jazz et cet instrument immense a apporté, et ses bassistes. Donc. Alors, c'est une nouvelle aventure. J'ai été très, très, très seule. Oh my God, je ne savais même pas parler anglais. Je devais savoir juste dire « I would like six eggs », je ne sais pas quoi, là-bas. C'est un désastre. C'était la... Bon. Et c'est une vraie aventure encore et encore. Cage était là, mais je suis rapidement allée sur New York. J'ai reçu une bourse à Buffalo, un état dans de New York. Et je vais écouter les blacks, comme on dit dans le jargon du jazz. Je vais écouter dans le downtown. Et ça a été des chocs. Bien. Et cette chose m'a questionnée, l'écrit, le savant, le populaire, d'écouter ce free jazz. J'écoutais le jazz sur 10, mais j'écoutais le free jazz live là-bas. Cette jubilation de jouer sa musique, c'est ça le jazz. Donc pourquoi je ne joue pas, pour te répondre? Moi je passe par Rome pour arriver au Petit Faucheux, je suis très la parenthèse de la parenthèse. Pour arriver, pourquoi je ne joue pas ici? Parce qu'il me semble que je ne dois pas être la seule, mais l'artiste qui n'est pas catalogué, je dirais, lui il joue baroque. Elle, elle joue lyrique. Lui, c'est baroque. Déjà, il y a 16e siècle, puis il y a des 17e siècle. Hein, vous savez. Après, lui, c'est plutôt jazz rock, binaire. Lui, c'est plutôt ça. Lui, c'est plutôt free. C'est très complexe et très douloureux à vivre ça. Donc, j'ai, sur 25 ans d'apprentissage, parce qu'il m'a fallu 25 ans pour apprendre l'instrument, finir les études au conservatoire, je suis à ma 25e année de désapprendre, et j'oserais dire, depuis quelques années, je fais un peu ce qui m'est important et semble de faire et de dire. Voilà. Donc il y a 50 ans bientôt d'apprentissage et de travail. Alors, la France, eh bien, c'est parce que la culture, et je vais aussi passer un peu le micro à Quentin, qui est une jeune génération. Elle est très, les institutions culturelles sont très consensuelles au fond. Et au fond, la création, c'est un vaste sujet. On va parler de l'improvisation après, mais c'est aussi le sujet de la création. C'est pas l'institution la création. Et au fond, on nous fait avaler ce qu'on doit avaler, c'est-à-dire je vais prendre l'exemple de Paris. Parce que je vis à Paris. Est-ce que c'est semblable en province? Peut-être moins, d'ailleurs. On va savoir. C'est Bernard qui devrait répondre. On n'aime pas l'éclectisme en France. On n'aime pas savoir qu'un artiste, un soir, il est dans un club et quatre jours après, il donne un récital d'œuvres dites, écrites. Ça ne va pas, ça. Ça mélange les chaussettes. Et donc, pour te répondre, eh ben on part et tu t'en vas. Donc tu vas où ailleurs, on te comprend, on t'entend, je dirais pas on t'aime, mais c'est pas loin. Et je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup partie. J'ai vécu à Berlin, j'ai vécu 2 ans à Berlin, j'ai vécu 1 an au Japon, j'ai vécu 2 fois 1 an aux États-Unis, parce qu'ailleurs, on est entendu dans sa totalité. Dans sa singularité. Et c'est pour ça que je suis beaucoup partie.
Quentin, vous êtes parti, vous aussi?
Oui. Oui, moi, je peux vraiment m'identifier à beaucoup de choses dont parle Joël. Pour revenir sur 2-3 choses qui ont été dites, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Et c'est vrai qu'il est vraiment à l'image de Joël et de... Quand on la rencontre et quand on lit le livre, il y a une adéquation totale. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une réussite à ce niveau-là. Et tu parlais de transversalité Tu allais dans les clubs écouter du jazz, et puis peut-être l'après-midi, tu travaillais à l'orchestre, et le soir, tu allais écouter le jazz. Et c'est vrai que c'est une chose qui en France, n'est pas forcément... on considère que... Voilà, bien vu. Et moi, on s'est rencontrés aux États-Unis, d'ailleurs, où Joël enseignait, et où moi... d'une façon pas identique, mais similaire, j'ai aussi été étudié là-bas. Et ça a aussi été par désir de partir, d'une part. Donc moi, je suis pas monté à Paris, j'étais déjà à Paris. Donc je suis monté en Hollande, j'ai fait le conservatoire là-bas, et en jazz et classique. Mais déjà là-bas, on pouvait faire du jazz et du classique. Et on était... Et on faisait du contrepoint, de l'harmonie. Il y avait déjà une vision plus large de l'activité musicale et un enseignement qui se passait sur plusieurs années, c'est-à-dire 5 ans, alors qu'au conservatoire à Paris, c'est sur 2-3 ans. Et donc, du coup, on a un niveau d'excellence. Quand on arrive, on est déjà formé, en fait, et on y va plus pour, rencontrer des professeurs qui ensuite nous placent ou pour se faire un réseau donc, de contacts de musiciens et peut-être de gens plus âgés qui vont vous placer dans le milieu. Donc, un système très différent en Hollande, beaucoup, et que j'ai bien apprécié. Mais c'est vrai qu'après, j'étais un petit peu comme Joël, mais à l'inverse. Je faisais du jazz et j'allais écouter les pièces de musique contemporaine et de musique improvisée et de musique électronique dans les autres départements ou dans d'autres lieux que les clubs de jazz. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un improvisateur assez formidable qui s'appelle Fred Fries, que Joël connaît bien, que peut-être que vous connaissez, et avec qui j'ai joué en Hollande et qui m'a dit tu pourrais peut-être venir aux États-Unis, là où j'enseigne, en Californie. Ce que j'ai fait, donc je me suis lancé, je connaissais personne sauf lui, mais c'est pas, le connaître c'était beaucoup dire, j'avais joué une ou deux fois avec lui, donc je suis parti à l'aventure, et je pense que ça c'est toujours une réussite de faire ça, et parfois on a le rêve d'aller étudier comme ça loin aux États-Unis, mais on se dit que c'est impossible, que c'est très dur et tout ça, et au final non, vous savez les bourses tout ça, moi j'étais un des seuls à la demander en fait, finalement il faut du courage pour tout quitter, pour aller dans un endroit qu'on connaît pas, et il n'y a pas tant de gens que ça qui le font, et au fond une fois qu'on arrive là-bas, comme tu disais Joël, on est accueilli vraiment à bras ouverts, parce que les gens respectent beaucoup le fait de partir pour ce en quoi on croit, pour notre passion, et c'est là-bas que j'ai rencontré Joël, et donc sur ces transversalités entre les différentes musiques, les différents genres, on s'est évidemment trouvé. En plus du fait d'aimer le fromage étant français, on a fait notre chemin. J'apprécie beaucoup aussi cette. Enfin, je ressens aussi ce besoin de pas être cantonné à une discipline comme un expert. On est un petit peu dans une société d'experts, et je pense que j'ai une vision un peu similaire à Joël, qui est plus large. Bon, utiliser le terme de poétique ou de philosophie, enfin, c'est des mots qui veulent dire beaucoup de choses, mais d'avoir une pensée plus large qu'un style à l'intérieur de la musique, mais d'essayer d'avoir une adéquation entre sa façon de penser et sa manière de faire de la musique et de vivre au quotidien.
Alors parlons justement de la façon, de cette façon de faire cette musique. Parlons de l'improvisation, c'est vraiment au cœur, c'est le chapitre 4, improvisation, composition du livre. Tu vas vraiment au cœur du processus de l'improvisation. Première question, toi qui viens de par ton parcours musical classique de la composition, donc de la lecture d'une œuvre ou classique du 19e ou bien du 20e siècle, qu'est-ce qui fait qu'on va vers l'improvisation ? C'est un désir de liberté, c'est quoi ?
Un désir de liberté. Oui, c'est avoir une presque arrogance de chercher sa musique. Donc c'est toute une vie au fond, c'est jamais fini. C'est plus tard une singularité aussi. Donc au fond le sujet de l'improvisation, il devrait être beaucoup plus simple parce que... L'improvisation est une musique naturelle. C'est un savoir qui après s'agrandit, s'ennoblit. Mais c'est prendre son outil. Après tout, un instrument, c'est son outil d'expression. Donc il y a d'abord un apprentissage classique du terme, c'est-à-dire l'appréhender de toutes ses facettes. Et connaître très 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 bien son outil. C'est pour ça que On nomme toujours ce classicisme ou classique ou la musique classique, mais je remercierais mes professeurs parce que j'ai immensément appris et je la connais à droite, à gauche, à l'intérieur, le bois, l'acier, la résonance. Ça va faire bientôt 50 ans, c'est pas le propos. C'est que c'est une joie continuelle, permanente. D'abord, il y a cet outil-là. Apprenez à faire une belle armoire. Il vaut mieux que le charpentier connaisse ses outils, ses petits marteaux, ses grands, ses clous plats, les petits rabots, le grand rabot, les planches, les épaisseurs, les centimètres. Et il fera une belle armoire. Sinon, il va faire un bloc, un truc. Vous voyez ? Donc, à la base, il y a ça. Et après, le sujet de l'improvisation, c'est assez naturel de prendre son instrument et d'exprimer quelque chose. C'est que surtout dans l'enseignement, on s'en aperçoit plus tard, après. Donc là, je peux le dire maintenant avec presque même polémique, je dirais. Comment se fait-il que cette chose ne soit pas plus simple et que fasse partie dans l'enseignement ? Je veux dire que l'enfant qui joue une première sonate à son violon, à son piano, à sa trompette, peut faire son premier mouvement. C'est bien Robert. Bon, bah, écoute, maintenant, tu me fais une gamme, puis après, on va faire le premier mouvement. Bon. Ça se joue, puis après il pousse la partition et le pupitre, puis il dit, bah, tiens, écoute, là, on est mardi, tiens, joue-moi quelque chose. Voilà, et ça, on ne le fait pas. Donc, cette improvisation, c'est simple, au fond. C'est que d'une part, je crois, alors, pas être complètement négatif, le corps enseignant ne veut pas, ne sait pas, ne connaît pas. Et il y a aussi l'appréhension comment la société est bâtie. Enfin, un conservatoire est conservatif. C'est une conserve. Je ne vais pas être quand même totalement négative. Mais imaginez que les hiérarchies, la société est remplie, n'est faite que de ça. Donc le professeur a un savoir et l'élève est là pour apprendre. Donc imaginez que dans cette courte improvisation de 3 minutes, je ne sais pas, au violon, à la trompette, l'élève devant son prof se met à jouer un bazar total, sublime, sans partition. Mais quelle panique ! Et c'est là où il y a l'élève et le professeur. Donc on ne veut pas de l'individu, on ne veut pas de la singularité. L'improvisation nous miroite cette chose-là, elle est implacable. De nous dire qui nous sommes quand on improvise, c'est une mise à nu, c'est un risque, c'est du ratage. On ne veut pas rater, tout est écrit, noté. Alors après, on peut, moi je suis un peu polémique, je dis policé, mais dans le bon sens du terme, mais on ne veut pas rater, on ne veut pas être pas bon, on ne veut pas. Parce que l'improvisation, c'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est l'individu qui la crée dans l'instant même et précis, dans l'instant réel de la vie qui s'écoule. Et qui peut faire aussi parfois du moyen, de l'à peu près, du peut-être pas bon aussi. Et on ne veut pas ne pas être bon, puisque tout est fait dans cette société pour que ça soit impeccable, implacable, parfait, number one. Il faut être grand, riche, fort. Toc, toc. Et l'improvisation, c'est aussi, certains soirs on joue, c'est pas qu'on joue moyen, mais on écoute différemment, on écoute difficilement, on construit, parce que l'improvisation est un sujet compositionnel. C'est un art d'improviser. C'est un art, donc c'est un work in progress, comme on dit. C'est une chose qui va se faire là, peut-être ce soir, peut-être dans un autre groupe. Mais c'est un miroir de nous-mêmes. C'est sûrement des musiques qui restent les plus humaines. C'est une musique les plus démocratiques. Parce qu'il n'y a pas le leadership de savoir le compositeur et son savoir. C'est écrit, c'est pensé, tu joues ça. Et au fond, ça veut dire tu te tais. D'où cette hiérarchie du compositeur. Moi, c'est bien sûr que j'ai une critique totale de notre 21e siècle, de savoir que même à notre époque-là, qui est qu'un seul individu, c'est totalement obsolète en ce moment, qui détient tout, il décide tout, il écrit tout, il pense tout, il met tout sur le pupitre, et taisez-vous. C'est fini! On est à un autre siècle, on doit fouiller, chercher ailleurs. Je pense que l'improvisation est un sujet de l'individu, pas simplement artiste, mais de l'individu créatif. On ne veut pas développer la création de l'individu. De l'homme au coin de la rue, là, ce soir, en rentrant chez vous. On est tous, on a cette chose-là, cette petite, je dirais, vibration où on a à s'exprimer soi-même. Mais on ne veut pas, on travaille, on veut de la masse. Voilà, société de masse. Regardez notre télé. Débile. débilitante. C'est gravissime ce qui se passe. Je crois que c'est gravissime. Voilà. Dans le sujet de l'improvisation, c'est soi. C'est arriver peut-être à son soi. Et c'est dur, et c'est long, et c'est œuvré. Mais c'est l'œuvre d'un individu qui marche et qui grandit et qui se questionne. Ce n'est pas simplement l'artiste.
Quentin, l'improvisation, c'est une composition instantanée. Comment, par exemple, cette improvisation s'est conçue, construite
Je vais te répondre. Ce qui est vrai aussi, et ce qui permet de retomber sur ses pattes, je crois que Joël en parlait peut-être avec modestie, mais c'est qu'elle est une immense contrebassiste, tout court, improvisation ou pas. Ce qui lui a permis de jouer les œuvres de John Cage, de Chelsea et d'autres, et d'avoir participé à l'intercontemporain sous la baguette d'un certain Boulez, j'imagine, ou peut-être, et d'avoir créé les œuvres de Tristan Murail. Donc elle fait partie de l'histoire de la musique contemporaine à la contrebasse. Ce qui fait que quand elle improvise, évidemment, il y a quelques repères, il y a une justesse, un engagement, chaque note est vraiment pesée. Donc du coup, je dirais, elle peut faire un peu ce qu'elle veut et ça sonnera bien. Mais c'est incomplet. Voilà. Et du coup, elle peut voyager et rencontrer plein de musiciens américains, japonais, africains, chinois, peu importe. Elle a toujours cette chose présente et ça a été beaucoup de travail et beaucoup de travail avec des professeurs et sur le classique. Donc je pense que ça, on peut quand même le dire. Il y a être un improvisateur, c'est pas facile, au contraire, il faut être sacrément blindé au niveau de ses connaissances et de son bagage. Et après, pour revenir brièvement sur la façon dont moi j'aborde l'improvisation ou la composition, qui pour moi sont un va-et-vient. On ne peut pas être improvisateur sans s'intéresser à la composition, et vice-versa. Tout compositeur, en général, a un vrai intérêt pour l'improvisation, parce que je dirais ils sont liés. Et je pense, une chose qu'on a en commun, on en parlait un petit peu dans les loges avant le concert, c'est une vision du musicien, de l'improvisateur, qui inclut beaucoup d'influences et de gestes différents dans une forme assez dramatique. Donc il y a plusieurs éléments dans cette phrase, mais je dirais donc le fait de pouvoir se permettre, donc moi dans mon set improvisé, je peux tout à fait, sans être tout à fait dans la citation, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai shippé, c'est quelque chose que j'ai digéré et qui ressort d'une façon, spontanée. Il y a un phénomène inclusif de différentes cultures musicales, donc on peut parler, pour faire bref, on dira le jazz et la musique contemporaine, mais ça pourrait aller vers la pop ou le rock. Il y a beaucoup d'improvisateurs qui ont nourri la musique improvisée et l'improvisation grâce à en venant du rock, justement, comme le jazz a continué toujours de se nourrir des nouvelles musiques. Donc voilà, j'essaye de mettre en musique d'une façon avec une certaine dramaturgie, avec des éléments de composition, dans le sens où la composition, elle apparaît par... pour moi, sous forme de motifs, j'ai des gestuels, des motifs mélodiques ou rythmiques ou de texture qui, en général, j'en ai deux, maximum trois qui circulent en même temps et où j'alterne comme ça. Et là, je suis dans la dramaturgie. Là, je suis dans une mise en scène du temps et de l'idée. Avec la main gauche ou c'est peut-être quand tu penses à la main gauche tu dirais un côté orchestral au piano Joël fait pareil à la contrebasse, ça c'est une vision de musicien global, ça peut être à n'importe quel instrument, enfin, peut-être qu'au carillon sera plus difficile, mais et donc forcément il y a cette notion d'orchestration, et la composition elle apparaît là, c'est-à-dire que comment avec un piano, si vous voulez, on est habitué, je dirais, à prendre le piano où la main gauche fait un accord et la main droite fait la mélodie. Et évidemment, c'est une chose qui peut être sublimée et qui peut être sublime, mais beaucoup de choses ont été dites de cette manière-là. Et évidemment, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de détourner un petit peu cette chose-là, parfois l'utiliser, mais aussi de m'en éloigner et de faire sonner le piano juste comme un objet avec ses différentes possibilités en dehors de sa spécificité.
Ce qu'on a entendu tout à l'heure, on peut parler, pour utiliser une métaphore, d'un parcours ou d'un voyage. Dans ce parcours-là, dans ce voyage-là, dans la conception que tu en as, il y a des bornes, il y a des... J'ai envie de dire une écriture déjà. On peut le dire.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une écriture. Je pourrais tout à fait vous dire tout ce que j'ai fait en fait. Enfin, c'est, sans que ce soit, sans que je l'ai, si vous voulez, je prévois pas mes parties ou les motifs. Mais par contre, j'ai mes recettes, j'ai mes cuisines. En fait, donc l'improvisateur, quand il arrive sur scène et quand il propose. Bon, en solo ou dans un dialogue, il faut qu'il ait une matière à proposer à son interlocuteur, comme dans une conversation. Il faut que j'ai quelque chose à dire. Il faut que je vienne de quelque part, que ce soit du jazz, du contemporain, avec cette théâtralité ou pas. J'ai besoin de donner quelque chose et à ce moment-là, soit le public.
L'improvisation ne s'improvise pas. Ouais.
Bernard Aimé, toi qui connais bien et l'histoire du jazz et cette scène de ce qu'on appelle la musique improvisée, tu peux peut-être nous parler de. C'est intéressant pour. L'auditoire, de voir comment, quelle forme l'improvisation, quelles sont les différentes formes d'improvisation. On a parlé avec la forme du jazz, de l'improvisation idiomatique, après non idiomatique, parce que ça recouvre quand même toute une histoire et tout un champ. Ouais.
Oui, l'improvisation, ça remonte au début de l'histoire du jazz, hein, donc dès les prémices. Pour parler du Petit Faucheux, on se considère comme une salle de jazz ouverte à tous les styles de jazz jusqu'à l'improvisation la plus radicale, puisqu'il nous semble que c'est la même histoire, même si c'est pas toujours clair, toujours évident, notamment je pense pour les oreilles du public qui est parfois totalement surpris d'entendre des musiciens, je sais pas, Ivan Parker ou Fred Fries dont on parlait sous une étiquette jazz dans une salle considérée comme une salle de jazz. Pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment, je pense qu'il y a autant de richesse dans une improvisation de Fred Frith que dans un solo de Sidney Bechet, mais vraiment, réellement. C'est la même prise de risque. L'époque n'est pas la même, donc les techniques ne sont pas du tout les mêmes. Mais la démarche est quand même très semblable. Je crois qu'il y a vraiment un parallèle, même s'il ne s'entend pas d'une manière tout à fait évidente. C'est quand même tout ça, c'est la même histoire. Je pense que Joëlle Léandre ne jouerait pas comme elle joue aujourd'hui s'il n'y avait pas cette histoire de jazz derrière. Ça me paraît totalement clair. Quoi. C'est la même chose pour Quentin, c'est la même chose, je crois, pour tous les grands improvisateurs actuels. C'est pour ça que nous, je pense, du temps que j'étais encore un petit faucheux, on s'est forcé d'avoir une programmation qu'on peut dire éclectique, mais pas assez, sans le côté péjoratif de l'éclectisme. C'est-à-dire qu'on essaie de présenter ce qui se fait de mieux avec nos moyens les plus créatifs dans ces musiques-là. Alors ça peut être Ivan Parker, ça peut être... Moi j'ai un souvenir très ému d'un duo Annick Nozati-Fred Vanneuve dans l'ancien Petit Faucheux qui s'est joué devant 6 personnes au début et 3 à la fin. Mais voilà, on a revendiqué cette musique-là jusqu'au bout. Et c'est pas chez les 6 personnes qu'on n'a pas continué à faire cette musique. Donc je crois que l'improvisation, comme dit Joël, ça ne s'improvise pas. C'est un travail permanent qui est au-delà des styles, totalement au-delà des styles.
Ces musiques sont bizarrement entendues, c'est ça qu'il faut dire. Elles sont même au travers, il faut le dire Bernard, parce que tu as raison de dire que le jazz, Sidney Bechet et que l'improvisation est le sujet du jazz. Mais bien sûr, pas que de là, puisque on improvisait. D'ailleurs, au XIVe siècle, était reconnu un musicien s'il savait improviser. C'est un musicien, XIVe siècle. Donc c'est une vieille histoire, mais quand tu parles du jazz et de tous ces grands musiciens, c'est que ici en France et sûrement aussi en Europe ou ailleurs, comment se fait-il qu'on a du mal à jouer ces musiques? Parce qu'il y a même les jazzmen qui n'aiment pas notre travail, c'est ça que je veux dire. Et il faut le dire. J'ai pas de réponse, mais on souffre peut-être aussi de ça, parce que moi, où j'en suis personnellement, avec ma basse, avec mon chemin, avec même une reconnaissance, il n'y a que moi qui sais, vraiment internationale, c'est laborieux d'appeler, dites-moi, tu dois connaître, dis-moi 3 noms de festivals de jazz en France. Ils n'en ont rien à foutre de ce que je fais. Mais rien, je ne vais pas dire le mot. J'aurais joué avant de mourir avec les plus grands musiciens de la planète, de tout ce qui est de la musique créative, inclut les grands jazzmen. De jouer avec Braxton ou Lewis, c'est pas parce qu'ils sont blacks, ou de jouer avec Irene Schweitzer ou tous ces musiciens, ou Broadman ou Koval, tout ça. Je suis une musicienne qui a fait beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'on va m'ouvrir les portes. Dis-moi, aidez-moi, donnez-moi 4 noms de festivals de jazz. la grande parole du grand de jazz à Nice, à Montreux, à Marciac. Mais je peux tenir un plateau, moi, devant 500 personnes, en trio ou en quartet. Pourquoi ils ne nous appellent pas? Pourquoi on les ennuie, pour ne pas dire un autre terme? On en est où là-dedans? J'ai plus à faire avec mes groupes et les musiciens que je peux même jeunes à côté de moi ou des moins jeunes et appeler parce qu'ils aiment jouer avec moi et remplir une salle aussi que de jouer et d'appeler toujours et certains et les mêmes parce que le jazz est aussi codifié et institutionnalisé et il ronronne. Et ils ronronnent, ces certains jazzmen, sublimes musiciens, qui se sont peut-être pas posés assez de questions sur la forme et structure, l'harmonie et ailleurs. Tu comprends? Et nous, on en crève de se poser des questions. Et on ne nous fait pas jouer en France et ailleurs. Et on se bagarre 10 fois plus. Pourquoi je joue pas là et là? Je dis je, c'est pas moi, hein. C'est mes potes et mes potesses et des sublimes musiciens qui jouent pour encore 50 bucks or 100 bucks en New York et qui crèvent et qu'il y a des musiciens en France qu'on n'entend plus parce qu'ils jouent free ou quoi. Et qu'est-ce qu'elle a cette free? On fait peur? Oui, on doit déranger. Oui, on dérange. Oui, sûrement. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le plateau. Et pourquoi? Et le public? Mais le public, il attend peut-être que ça, d'être bouleversé encore, d'être même dérangé. Mais l'artiste, il est subversif. C'est ça, l'artiste. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le feu ou faire la révolution, mais il doit anticiper des choses, il doit questionner. Un public, il est actif. Un public, il attend de rêver, mais même d'être bouleversé ou dérangé, et il sort. Il va rentrer chez lui, il va dire « Merde !» Évidemment, s'il a une conscience, il réfléchit un peu. « Tiens, pourquoi je suis parti, là ?» Mais pareil pour une expo. Aller voir quelque chose qui ne comprend rien. Mais c'est bien qu'il ne comprenne rien. Parce que quand il rentre, le soir, il dit « Merde, j'ai vu 2 lignes, il y avait 3 points rouges. » Mais il a absorbé cette chose, il a vécu. Puisqu'il s'est dérangé, il a vu ces 2 lignes. Eh bien, elles vont rentrer dans ses graines, dans ses molécules. Même s'il ne comprend rien, c'est bien de rien comprendre. Eh bien ça, notre éducation, on ne veut pas cette chose-là. Et nous, ben on va jouer ailleurs. On va jouer, on crée dans d'autres tribus. Mais moi, j'attends qu'une chose, que les festivals. Évidemment que j'ai plus à voir avec les festivals de jazz que de jouer du baroque en ré majeur. Sauf que, hein, comprenez bien, c'est pas que moi là qui je suis une porte-parole. Là, j'ai presque un drapeau de ces musiques créatives. Et pourquoi on nous met de côté?
Non, mais ça me. Oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais par rapport au jazz, voilà, j'avais une. Enfin, pour parler en tout cas de mon point de vue, sans trop généraliser, mais j'ai vraiment, adolescent, eu un flash après avoir fait du classique, un flash sur le jazz et une certaine énergie, quelque chose comme ça de très communicatif, notamment chez des gens comme Coltrane ou voire dans le free jazz, évidemment. Et c'est après des études de jazz où j'ai vu que le jazz était devenu quelque chose quand même de très commercial, si je puis dire, institutionnalisé, et où j'ai eu un problème d'identité, en fait, de me dire cette musique, c'est quand même une musique de noir américain. Je suis né à Paris, je suis français. Qui suis-je? Enfin, est-ce que je vais simuler le New Orleans à jouer du jazz et faire swinger? Peut-être je swing un peu, mais bon, je suis quand même pas non plus. C'est pas ma culture. Donc voilà, de se positionner avec cet héritage du jazz, tout en étant européen. Ouais, et là, on tombe dans ce qu'on appelle la musique improvisée. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette prise de parole. En essayant d'être authentique à nos risques et périls, parce que tous les concerts ne sont pas réussis, comme tu disais tout à l'heure, avec l'improvisation, mais au moins qu'il y ait une prise de risque, un engagement, voilà, quelque chose d'un peu personnel et créatif, et sans être dans un copier-coller de choses qu'on a tous aimées et qui ont 50 ans maintenant, je parle des années 60 et du jazz, et qu'on a tous aimé, donc on prend aucun risque à faire ça, même si on le fait un peu moins bien, tout le monde est d'accord. Et cette chose-là est évidemment problématique, et elle est problématique aussi pour les gens qui dirigent des clubs de jazz ou organisent des festivals, parce que évidemment, je pense que le public, la facilité serait de leur donner quelque chose qu'ils connaissent, qui ressemble un petit peu à des grands classiques, et c'est beaucoup ce qui se passe, mais non, pas que, parce que on peut quand même jouer. Et pour revenir à quand des gens, avec notre démarche, Joël ou moi, quand on va aux États-Unis, ils sont très contents et ça les amuse de voir des petits Français qui font leur truc à eux et qui essayent pas de jouer comme Miles Davis, quoi. En tout cas, ils sont contents.
C'est peut-être une musique trop. C'est une musique trop. Une musique trop, peut-être. Parce que les institutions... Moi qui sors des académies, qui sors des institutions, justement. Évidemment que j'ai réfléchi là-dessus. Et il ne faut pas quand même incendier tout. Mais c'est, je pense que c'est une musique dérangeante. Puisqu'elle est constamment en mouvement. Puisque c'est une musique qui ne se fixe pas. Tout à fait. Et puis l'improvisation ne se fixe pas. Donc on ne veut pas des gens en avant dans de ne pas savoir le résultat. Donc le public peut-être pas, mais les institutions qui sont la culture, qui prétendent l'être, veulent des choses sages, bien séantes, assises. C'est tout. Donc même le jazz, bien sûr, tu as raison de dire que le jazz, que moi je remercie les jazzmen parce qu'ils m'ont donné, cette liberté dans le jeu et ce risque de me chercher. J'ai pas dit de me trouver, mais de me chercher. C'est quand même les musiciens de jazz qui m'ont donné ça. Mais le jazz, bien sûr, c'est installé et c'est commercialisé. C'est quand même fou puisque le jazz, c'est aussi... Il y a des écoles de jazz maintenant, dans tout conservatoire, en France, par exemple. Il y a aussi les conservatoires, parce que bon, ben, il y avait la grande sœur en face qui s'appelle la musique classique, c'est la grande sœur. Donc les jazzmen, ils se sont dit, bon, ben, on va aussi, il y a des écoles de jazz. Donc ça fait des sublimes musiciens qui sortent des conservatoires. Alors à la fin de l'année, vous avez 502 pianistes, 392 sax, 220 trombonistes, 104, j'invente hein, évidemment, 182 bassistes. Ils vont faire quoi? Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas plus de clubs. Ça va faire quoi? Tout le monde se court après. Alors, il y a déjà ça c'est un point, mettons ça de côté. Mais le jazz, bien sûr qu'il y a ce jazz commercial. Eh bien, parce qu'il y a aussi un public. Et le public, il faut le provoquer. Alors, si on ne le provoque pas, bah, ils vont à ce que... Voilà. Je ne crois pas que ça soit une musique élitiste, l'improvisation ou le free jazz ou toute cette... Je ne pense pas. Le public peut faire aussi un effort, mais il est prêt à ça. Je suis persuadée de ça. Enfin, moi, je le pense comme ça, je le veux comme ça. Je crois que c'est les institutions qui nous repoussent. Nous sommes des hors-la-loi et des rebelles. Alors, on s'en sort parce qu'on n'est pas seul, d'ailleurs. Et c'est ainsi, je ne sais pas, pareil en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, pareil. Je veux dire, Braxton, avec qui je connais un peu, mais je ne vais pas faire... On connaît Braxton. C'est un black saxophoniste, compositeur. En Europe, il propose sa musique écrite, ouverte aussi, avec l'improvisation inclue dedans, mais on ne le prend pas au sérieux. Braxton a souffert, il aura souffert toute sa vie. Et aux États-Unis, on dit qu'il n'a pas le blues. Il devrait l'avoir parce qu'il joue le sax, il est black. Et quand il arrive en Europe, ah ben ça swing pas assez. Puis c'est pas assez noir. Braxton, il devrait être joué à Musica, au Festival d'automne. Il passe pas. On joue pas ses œuvres. Il est en train, c'est un compositeur comme on parlerait d'un Boulez ou d'un Stockhausen, ou d'un Grisé ou d'un jeune compositeur établi. Il a des partitions, on joue pas du Braxton. C'est parce que justement, il y a une dichotomie. Il n'en a pas de dichotomie. Il est d'une intégrité immense. Il y en a d'autres, il y en a quelques-uns comme ça. Alors, c'est toutes ces choses-là que la société culturelle ne veut pas entendre parler de ça. Donc, on se débrouille. Alors, on a des magnifiques amis. Moi, je viens ici régulièrement, ailleurs, et certains musiciens, parce qu'on peut reconnaître la valeur du musicien ou son parcours, mais c'est croix et bannière. C'est vraiment, il me semble, j'ai d'une part de chance aussi, ce DVD qui a été fait, ce livre avec Franck, mais 145, bientôt 150, c'est pas de les compter comme une petite fille, c'est un travail. Je vais partir en laissant des choses, mais j'ai travaillé 10 fois plus que certains, et que même certains jazzmen. Donc oui, il y a des choses à changer. Comment faire? Nous, on se pose des questions. On va vers les laptops, les musiques actuelles, le chant improvisé. Ils se posent ces questions d'aller vers la musique. Même moi, s'il y a un rocker qui me demande, je suis prête. Non, mais je te jure. J'ai joué avec des jeunes, des laptops et tout. Laptops, c'est des computers, la musique électrique, électronique. Voilà. Pas les jazzmen. Attention. Alors, Je veux pas faire l'avocat du diable, mais il y a un... Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que toi, tu aussi interviews des jazzmen, tu écris. Qu'est-ce que tu en penses ?
Joël, c'est moi qui pose des questions habituellement. Je suis là pour ça. Ah, Marcia, pourquoi ? Parce que tu ne corresponds pas au canon de la musique de jazz telle qu'on...
C'est quoi le canon ?
J'ai un exemple la semaine dernière. Oui, non, mais à propos de l'improvisation dont on ne sait pas ce qui va arriver, je pense que c'est à la fois la grande force et la grande perte de cette musique, malheureusement. Et j'en parlais, et le jazz tend aussi à avoir ce même problème. C'est-à-dire que j'ai des amis, moi j'enseigne dans un conservatoire, le piano jazz, et j'ai créé un atelier d'improvisation cette année avec la directrice qui est très sympa, pour faire une transversalité et inviter des musiciennes classiques à improviser en fait, et ils ont l'air assez contents pour l'instant, enfin bref, et mes collègues de jazz disaient oh, c'est marrant, maintenant on peut plus faire un quartet de jazz, il faut dire Stéphane Huchard joue Art Blackie et Jazz Messenger ou tel, il faut que chaque projet ait à chaque fois une spécificité du moment, un concept, et bon, et j'ai un peu l'impression qu'on est quand même dans une tyrannie de l'information et il faut toujours se définir, dire ce qu'on va faire, qu'on a cette peur du vide, et malheureusement la musique improvisée elle part de ce vide, c'est la nature même de cette musique, c'est de partir à zéro et d'avoir le processus créatif qui se crée dans le moment, et je pense que c'est la responsabilité de chacun dans nos vies, à nous, de pas se laisser avoir par ces choses qu'on nous agite, un tel joue ça, et comme ça on sait ce qu'on va voir, si ça se trouve ça va vraiment être pas terrible, et puis quand on sait pas, on a parfois des surprises magnifiques. Enfin, moi parfois je vais à des concerts dont je ne sais pas du tout ce que ça va être, et parfois c'est nul, mais parfois c'est génial, et je pense que c'est une bonne chose à faire.
Pour répondre quand même à ta question... Non, moi je vois de ma petite lanterne des rigidités de toutes parts, hein, même de la part des musiciens. Un musicien de jazz par rapport à un musicien qui pratique plus le chant de la musique improvisée, et inversement aussi, oui, bah, bien sûr. Ah bah ça va dans tous les sens. Et puis il y a en France quand même quelque chose, il y a cette question du style. On l'a évoqué tout à l'heure, Bernard, le style, ce qui fait la, quand même que ce lieu où nous sommes là est quand même assez singulier en France, il faut le dire, hein, c'est qu'il accueille des musiques. Il accueille pas un style. Il n'y a pas marqué free jazz, il n'y a pas marqué jazz de 1933 à 1942. C'est un lieu ouvert aux musiques et souvent, c'est le style. Toi, tu fais quoi ? Ben, moi, je fais du hard bop. Moi, je fais du free jazz. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on sait, par exemple, tu sais mieux que moi, Joël, qu'aux États-Unis, quand un musicien, il s'en moque complètement de ce que ça soit du jazz, free jazz, post-hard rock, smooth, post-pré-jazz. C'est pas le propos. Ce qui est important... En revanche, c'est quand même d'avoir une identité sonore, une identité musicale forte, bien définie, avoir un projet artistique qui se tient, et avoir le son, avoir son son. Et donc là, on ne parle pas de style, on parle de son. La musique, c'est quoi ? C'est l'art des sons, l'art d'un agencement de sons. Et je remarque ici, en Europe, mais beaucoup en France, on est dans des styles, dans des petites boîtes, dans des clivages et dans des crispations.
Donc c'est vrai que ces musiques-là sont ignorées totalement des médias, donc c'est très difficile pour le public aussi de faire l'effort, de faire la démarche d'aller écouter des concerts présentant ces musiques. C'est plus facile d'aller effectivement à Marseille, que tout le monde a parle des musiciens qui sont diffusés là-bas, tout le monde connaît Didier Prudhivauteur, c'est sûr.
Il y a le problème évidemment de la disparition de la presse écrite, hein, ça c'est, enfin, il y a des chiffres qui sont un peu accablants. Il y a aussi une culture, enfin je dis ça parce que par exemple aux États-Unis ou en Hollande ou en Angleterre, il y a un vrai respect des critiques et des gens qui réfléchissent sur l'art ou la musique et qui écrivent des papiers sur ça. Et en France, je pense que être critique, c'est a priori pas forcément quelque chose de bien vu, on préfère le faire, ou alors on a son opinion, mais on ne voudrait pas vraiment la partager d'une façon officielle. Et je pense que ça change un petit peu. En tout cas, moi j'ai un ami qui écrit, Pierre-Yves Massé, tu dois le connaître, qui est compositeur et qui écrit des papiers très intéressants, tu vois que c'est, et qui essaie de se positionner un petit peu en penseur, réfléchir sur la musique et écrire des papiers. Et moi, je pense que c'est très important que le relais soit fait. Et il n'y a pas que les musiciens qui portent la musique, loin de là. Hein. Je pense que toute personne qui en écoute et qui a une sensibilité et la faculté d'avoir une vue d'ensemble sur les choses et sur l'histoire, parce que c'est aussi beaucoup une question d'histoire, c'est l'apport de la réflexion de ces gens-là est fondamental aussi pour les musiciens. Et il n'y a pas assez de relais.
J'inverse la question. Quel regard les musiciens portent sur les critiques?
J'en ai besoin, je les lis, j'aime lire. Même, je pense que dès que je trouve des livres intéressants sur la musique, je les lis et ça me stimule, je me sens enrichi.
Oui, il y aurait une chose aussi à dire sur les critiques, où tous ces disques qu'ils doivent recevoir, ils sont écrasés de disques aussi, parce que maintenant on fait des disques bien qu'on n'arrête pas depuis 2-3 ans, un peu plus même, que c'est la mort du disque, il n'y a plus rien, plus les choses fermes, que tout va rentrer internet, l'achat sur ligne et toutes ces choses-là. Mais je pense que les organisateurs et aussi les gens de presse reçoivent je ne sais combien de disques toutes les semaines ou par mois, ils sont écrasés à mon sens. Moi, je me suis posé souvent des questions. Comment, pour le magazine, imaginons les 2-3 magazines qu'on avait en France, Jazzman, Jazzmag, comment ils écoutaient ça, comment ils sélectionnaient aussi, qu'est-ce qui se passe dans un bureau quand tu arrives par semaine, je ne sais, 40 disques qui vont prendre plutôt celui-là que celui-là, et comment ils en parlent. Alors, d'une part, et puis mais les critiques, mais après oui, Bernard pourra répondre à ça, mais tu dis on n'a pas de relais, je me demande même, écouter une musique, écouter un trio, écouter un quartet, écouter un disque de tel ou tel musicien, est-ce qu'il les écoute une fois, deux fois, trois fois, comment ils analysent, qu'est-ce qui se passe? Souvent on a l'idée aussi qu'ils écoutent très 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 rapidement. Et que je vais être un peu vache, que certains même ne se doutent pas, et que quand ils écoutent tel ou tel musicien, c'est important ce qui se dit dans la musique. C'est de la vie, c'est de la mort, c'est plein de choses. C'est ça. La musique, c'est quoi? Un langage, c'est quoi? Pourquoi on monte sur un plateau? C'est pas pourquoi on fait un disque. Pas pour faire un disque, c'est pour arrêter un temps et dire quelque chose de profond de ce que nous sommes, individus, race humaine que nous sommes tous et toutes. Alors on se demande des fois si même ils écoutent. Ils ne savent pas que si là ce musicien qui était en trio, maintenant joue en quintette ou en duo, ou je ne sais, c'est fondamental. C'est son travail, c'est un suivi. Et puis ils sortent un petit papier comme ça. On se demande même si parfois c'est critique. Où ils écoutent bien, ils savent le parcours du musicien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce qu'il faudrait connaître l'histoire même de la musique, des musiques? Mais pourquoi pas, après tout, ils pourraient être curieux et d'aller écouter d'autres musiques, de sortir ailleurs, même s'ils ont un chant jazzistique, ils sont dans le jazz. C'est important tout ça. Et il me semblerait, alors bon, vous allez me prendre à la fin de la soirée pour une vraie polémiste, oui, sûrement, je me demande s'ils ont cette curiosité d'autres musiques. Et comment analyser une œuvre, c'est pas une œuvre, une musique, un groupe. Et assez souvent, on a des papiers assez courts, parce que les pauvres, ils sont assez pigistes, ils sont mal payés, c'est vrai, parce qu'ils sont mal payés. Et c'est pas, je ne sais s'ils rentrent dans ces musiques. Je ne parle pas d'improvisation là-dedans. Hein. Je parle aussi même d'un jazzman, d'un groupe. C'est fait un petit peu à la va-vite. Et nous, jouons, réfléchis. Il y a de la pensée dans notre travail. Enfin, moi, je pense que dans mon travail, il y a de la pensée quand même. C'est fondamental si on rend compte. Tel individu, si on est parti faisant 3000 kilomètres pour aller, je ne sais, dans un petit village canadien ou autrichien pour rencontrer tel trompettiste, c'est de la vie. Eh bien, on a le résultat de mon Dieu, comme il y a tellement de disques peut-être, un sort de papier. Je me pose des questions, si même parfois ils ne se sentent pas obligés, je ne sais pas comment dire, embêtés de faire un papier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont, et qu'ils ne rentrent pas dans un sujet de tiens, il en est où, lui ou elle, dans son parcours? Ils n'en ont pas le temps, peut-être. Alors, on a des papiers, on est content, évidemment, quand on parle déjà un peu de nous, on a un article là ou un papier sur. On est content. Mais on se demande aussi, certains, si ce n'est pas un peu. Voilà, j'ai une critique là-dessus, ce n'est pas un peu la va-vite, quoi.
Ah ben non, ce n'est pas simple, oui. Il faut tout écouter, déjà. Mais pour revenir à la critique elle-même, parce que je l'ai fait à Jazz Magazine à une époque, c'est vrai que. C'est vrai que les magazines sont inondés de disques, donc c'est le rédacteur en chef. À l'époque, c'était comme ça, c'était Philippe Carle qui distribue les disques. Tiens, toi, tu critiques ça, c'est 5 là, toi, tu fais ces 5 là. Ça se passe comme ça, c'est effectivement pas payé. Les critiques de disques n'étaient même pas payées à l'époque, aussi. On était payé par le disque, c'est tout. Mais bon, ce qui n'empêche pas, après, moi, je peux parler que pour moi, là, mais sur le fond lui-même. Après, il y a des journalistes plus ou moins doués, plus ou moins consciencieux, plus ou moins passionnés. Et je crois que là, il y a tous les cas de figure, effectivement. Mais c'est vrai que les musiciens, bon, ce serait l'idéal, ce que tu dis, qui s'intéresse à la vie du groupe, à la vie du musicien, etc. Mais c'est un peu utopique, là. C'est vrai que dans les conditions de fabrication de cette presse actuellement, ce serait le rêve. Et c'est vrai qu'il y a aussi une telle abondance de disques qu'il est impossible de chroniquer tous les disques. Malgré la crise du disque, c'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent en permanence que. Alors après, les choix sont totalement arbitraires. Ils sont fonction de la philosophie de la revue ou des caprices du rédacteur en chef ou de ses copines, de ses copains et de toutes ces choses-là. Quoi. Enfin, Franck est plus au courant que moi maintenant.
J'étais venu ici pour poser des questions. Bon. C'est l'heure peut-être de clore cette table ronde qui était très sympathique jusqu'à présent. Non, qu'est-ce que je peux dire, la presse va assez mal, hein, la presse écrite va assez mal, donc les conditions de travail sont assez difficiles, les problèmes d'argent, les problèmes de fonctionnement. Il y a des paresses aussi, il y a des paresses, c'est ce que tu disais, moi je lis la presse, mais je ne parle pas que du jazz, moi je lis la presse en général, et je suis journaliste, je suis un grand consommateur de presse, c'est très varié, et je vois souvent ce que tu disais, de la paresse, de la paresse intellectuelle, et pour ce qui m'intéresse particulièrement, la musique et les musiques, j'estime quand même qu'en France, on est gâté pour avoir une assez grande diversité, même si ça se réduit. Hein, il n'y a plus qu'un magazine de jazz en France à présent. Il y en a un deuxième là, qui se crée, qui s'appelle So Jazz, dans quelques mois. Mais pour la presse classique, il y a quand même un magazine qui a disparu. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et... Il y a quand même une qualité de plume, il y a quand même une réflexion. Je lis aussi parfois, oui, je remarque beaucoup de paresse parfois, et de la part de journalistes qui reprennent tout simplement des communiqués de presse, qui remettent une virgule, un point et un chapeau. Et puis voilà. Hein. Mais en même temps... N'oublions pas que c'est en France que la critique de jazz s'est créée. La première revue de jazz au monde, nous l'oublions pas, c'est Jazzot. Et la critique de jazz, c'est Hommes et problèmes de jazz dans les années 50. C'est André Auder qui a vraiment posé des fondements importants. Et on peut dire que c'est vraiment la France qui a lancé cette pensée du jazz. Et... Quoi qu'on en dise, malgré tout, il y a aujourd'hui encore, il y a peut-être peu, mais il y a des gens qui pensent cette musique et ces musiques. Je me souviens d'un Américain qui disait aux États-Unis, le jazz, on en parle, en France, on le pense.
Il y a une revue anglaise qui s'appelle The Wire, on est tous les deux, on lit ça avec Joël, je crois, qui est plus basé sur la transversalité en fait. Et je pense que des magazines comme Jazzman et Jazz, ça existe encore Jazzot? Non, ben non. Qui d'ailleurs ont fusionné, hein, Jazzman et Jazzmag ont fusionné. Ouais, c'est ça. Malgré tout, j'ai l'impression qu'ils sont tenus à une certaine image, une certaine enveloppe d'un jazz traditionnel. Mais bien qu'il y ait des gens de vraiment bienveillants, et je pense qui ont plutôt bon goût et qui défendent des improvisateurs, hein, parce qu'ils le font aussi. Mais il y a quand même ce patrimoine qui semble être. Et certaines revues anglo-saxonnes, on peut trouver beaucoup plus de choses sur la transversalité et ces prises de risque dont on parle avec Joël. Elles sont plus assumées et. J'espère que ce jazz sera intéressant aussi.
Je ne fais pas de grande différence entre, ou je refuse d'en faire, c'est d'ailleurs politique, mon bazar là, entre l'écriture, c'est-à-dire la composition, et l'improvisation. C'est pour moi des sœurs jumelles. une improvisation et une composition. Elles s'attirent, elles dialoguent, elles sont très proches. C'est les sociétés ailleurs, culturelles, discographiques, la presse, et c'est tout ça qui, eux, nous oblige à faire et garder ce bâton comme ça et cette différence. Mais moi, mon labeur aura été de justement dire, signifier, souligner, déranger, bousculer, choquer peut-être, de dire c'est semblable. Là-dedans, il y a de l'écrit, il y a de la pensée, il y a des individus, et il y a une organisation, il y a du formel, il y a de la mémoire, il y a de ce qu'est quand on est... Sauf que quand on compose, on peut y revenir, on le sait, je répète ce qu'on dit, et on peut distribuer le papier pour que la musique soit rejouée. Je n'ai jamais personnellement travaillé pour les musées et pour savoir que ma musique, c'est peut-être parce que je suis une femme, parce qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là ce soir, parce qu'on est très peu, et c'est un autre sujet. L'homme trace, souligne pour qu'il soit entendu, il y a des bouquins pleins, c'est l'homme qui dirige le monde, encore et toujours. On joue les écrits, on pense, toute la société est ainsi. Je suis une femme qui fait mon travail, qui crée autant que certains, et que plus même, mais je n'ai pas l'excitation de savoir que mon œuvre sera, et mes partitions seront rejouées en 2092. Je veux être même très directe, je m'en fous totalement. Donc le sujet de la composition, c'est d'être rejoué. Et le sujet de l'improvisation, c'est dans ce temps réel de ce qui se dit. Donc moi, par rapport à mes disques, s'ils sortent, c'est parce que nous en sommes contents. Voilà. Attends, je n'ai pas fini, excuse-moi. Donc, est-ce que je réponds à ça? Est-ce que je réponds à ça? C'est un truc masculin aussi de savoir, parce que nous, on a très très peu d'histoire, les femmes, de savoir si nos œuvres seront rejouées plus tard. C'est quand même un vaste sujet, la création chez les femmes. Et aussi le sujet dans ces musiques-là, où nous sommes très 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 peu. Et ça, c'est pas normal non plus. Ça, c'est un autre sujet, on fera un débat un jour. Je sais pas, je vais appeler un anthropologue, un sociologue, un psychologue, un ou une d'ailleurs, un musicien de jazz, un vrai, un pas vrai. Et je veux qu'on trouve de savoir pourquoi dans la musique, il n'y a pas la parité. Musique créative, je ne parle pas d'interprétation. Vous allez dans les FNAC, vous savez très bien, il y a encore là, pas quoi, un chinois qui va rejouer le troisième concerto de Prokofiev ou de Beethoven. Fabuleux. L'interprétation, mais dans la création... Pourquoi il y en a tellement, tellement, tellement peu? Parce que le métier est dur. C'est un métier terrifiant. J'oserais presque dire, est-ce que c'est un métier d'homme? C'est ridicule. Parce qu'il y a des hommes costauds, il y a des femmes fragiles, il y a des hommes fragiles. Mais la profession est difficile. De partir, être assise 8 heures comme ça, il n'y a même pas à bouffer dans le train. Et vous changez 3 fois de train pour aller faire un petit gig dans un petit village pour des cacahuètes. Parce que tu aimes le trompettiste et là le guitariste et là le je sais pas quoi, le sax. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour nous. Et il n'y a pas beaucoup ou assez de femmes. Ça, c'est aussi un autre sujet. Hein. Donc, il n'y a pas de parité dans la musique de création, j'entends. Hein. Qu'elle soit écrite, d'abord. Il y a quelques femmes compositeurs. Et dans le jazz, des instrumentistes qui auraient leur band, leader, leur groupe, sur les routes. Je sais pas quoi. Donc, on met ça de côté. Pour répondre par rapport à l'écrit, le non-écrit, les disques, il me semble que le live a une importance pour le public. Moi, je souhaite, c'est peut-être utopique, qu'on le retrouve dans les disques que je propose quand je propose des groupes qui deviennent des disques.
Oui, rapidement. C'est intéressant. Moi, je me suis pas mal posé la question. Peut-être, je m'étais dit, ah tiens, peut-être le jazz a commencé aussi à être... de pouvoir enregistrer cette musique lui a donné tout d'un coup aussi une façon de... On peut le copier, c'est-à-dire que... J'accompagne ce que tu dis, mais le fait de pouvoir écouter les Charlie Parker et ici en France nous a permis de les imiter et donc du coup de perpétuer la tradition. C'était
mais
une nouvelle forme de partition, Joël.
C'était...
Ils enregistraient les lives et c'est devenu des partitions en fait. Donc quelque chose que tu dis qu'un moment de live est unique, mais évidemment que les contrebassistes qui vont t'entendre, je pense, s'ils ont de la suite dans les idées, ils vont se demander comment tu fais, ils vont essayer de reproduire ton écriture ou de l'imiter rien que pour s'enrichir sans te copier, mais de s'intéresser. Moi le disque permet en fait une trace et pas seulement pour soi, mais aussi dans le désir de laisser à d'autres gens, voilà, comme une flèche qu'on lance et qui est reprise et qui circule. Et après, par rapport au live, moi, c'est vrai qu'on a fait un disque avec Joël en duo, mais en studio. Il n'y avait pas du tout la même énergie, il y avait quelque chose de plus confiné, d'une énergie. Voilà, il y avait, et là, l'objet disque est valable en tant que tel, puisqu'il n'a pas eu d'existence live. Mais le live peut exister sans le disque. Mais après, je pense que aussi, moi, une de mes recherches, quand j'étais notamment aux États-Unis, ça a été de me dire comment faire que la musique improvisée, d'utiliser les moyens technologique de l'ingénierie du son de la pop. Donc moi, j'ai rencontré des ingénieurs son qui faisaient de la pop musique et de la musique électronique, qui pour moi sont les plus grandes avancées dans l'industrie du disque qui ont été faites par ces musiques, qui sont beaucoup, ils ont une grande recherche à ce niveau-là, dans la musique pop et de la musique électronique. Comment utiliser les moyens de ces musiques-là, c'est-à-dire des effets, des micros, des prises de son, utiliser ça pour enregistrer de la musique improvisée. En fait, moi, ça a été un peu un moment de la recherche. Et donc, d'arriver avec un objet disque de musique improvisée, mais pour l'écoute chez soi, pas dans le live. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, de plus en plus, parcourt un peu les musiciens d'aujourd'hui, de présenter de cette musique par le live aussi, par le disque, pas seulement le live.
C'était une rencontre autour de Joël Léandre, animée par Franck Medioni de France Musique, avec la participation de Joël Léandre, Quentin Sirjac et Bernard Aimé. Rencontre enregistrée le samedi 19 septembre 2009 au Petit Faucheux à Tours. Publication à voix basse. Entretien avec Joël Léandre par Franck Medioni aux éditions MF. Musique Joël Léandre solo et Joël Léandre avec Quentin Sirjac. À bout de souffle, arteradio.com/a-bout-2-souffle